Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte, nous voici au mois de décembre et c'est la dernière émission de l'année 2020. Le mois dernier, nous avons partagé le ciel avec les roitelets, les rouges-gorges et les alouettes. Pour ce mois de décembre un peu particulier, dans l'ambiance Covid, confinement, eh bien, j'ai eu envie d'y rester dans le ciel. Plutôt que des contes de Noël, l'année est différente. J'ai eu envie de quelque chose de différent. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un récit de vie. Mais le récit de vie qui se passe en grande partie dans les airs. Nous allons partir sur les traces d'Amelia Earhart, une des plus grandes aviatrices du monde. Longtemps, le ciel a été le domaine des oiseaux et des chauves-souris. Le début de l'aviation, c'est dans les années 1890. Un des pionniers de cet art, c'est Clément Ader. Ses travaux démarrent pendant la guerre de 70. Il essaye de mettre au point pour l'armée des cerfs-volants capables de faire voler un homme. Entre 1890 et 1897, il va réaliser 3 prototypes et le troisième réussit une distance de vol de 300 mètres. Il s'inspire des ailes de chauve-souris pour sa voilure. Les frères Orville et Wilbur Wright réussissent après de multiples prototypes de planeurs le premier vol motorisé et contrôlé d'un aéronef, le 17 décembre 1903. Ils sont les premiers à avoir analysé correctement la mécanique nécessaire au virage en vol et avoir mis au point le contrôle de la trajectoire. À partir de 1905, leurs avions permettent d'effectuer des vols stables de longue durée et avec une parfaite maîtrise des virages. Leurs modèles aspireront la plupart des biplans qui sont engagés lors de la Première Guerre mondiale. Amelia naît dans le Kansas le 24 juillet 1897. Le Kansas est un état du centre des États-Unis, une terre plutôt plate. Et la mère d'Amelia, Amy Otis, est la fille du juge Otis. Ses parents sont des notables de la ville d'Hutchinson. Et ils vivent dans une très grande maison avec beaucoup de domestiques. Et on ne peut pas dire qu'ils sont enchantés lorsque leur fille leur amène comme gendre Edwin Earhart, un grand brun au visage mélancolique qui est le fils d'un pasteur luthérien. Et il est flanqué de 11 frères et sœurs. Il n'est pas du tout du même milieu social que les Otis. Et il est avocat de formation et il travaille au chemin de fer. Le juge Otis et son épouse regardent leur gendre d'un très mauvais œil, mais ils offrent pourtant au jeune couple une maison à Kansas City. Edwin et Amy ont une fille, donc Amelia, puis une seconde, Muriel, qui naît 3 ans après sa sœur. Le père doit se déplacer fréquemment pour établir de nouvelles concessions de chemin de fer. Alors les filles vont passer leurs premières années dans la maison des grands-parents et elles ne retournent auprès de leurs parents que pour les vacances. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elles ne vont pas à l'école, elles ont un précepteur à la maison. Et Amy, avec docilité, le piano, la broderie et toutes les occupations des futures ménagères, elle lit en cachette tous les récits d'aventure comme Walter Scott, Alexandre Dumas, Hugo. Et avec sa sœur, elle grimpe aux arbres, elle aime jouer au football, patiner, monter à cheval à crue. Et l'hiver, elle dévale les pentes sur des luges. Amelia se fait offrir par son père une luge de garçon. Parce qu'à cette époque, les filles elles avaient des luges plus petites et sur lesquelles elles restaient assises, alors que les garçons se couchaient à plat ventre et du coup prenaient beaucoup plus de vitesse. Et voilà qu'un jour où elle dévale à toute allure les pentes sur sa luge de garçon à plat ventre, Elle voit là, au milieu de la piste, une charrette attelée à un cheval. Elle a beau crier, le voiturier n'entend rien. Alors elle se résigne à un plan désespéré. Elle passe entre les pattes avant et les pattes arrière du cheval. Elle réussit, mais après, la luge part d'un côté, la passagère de l'autre. Mais sa sœur se précipite et elle voit Amélia toute couverte de bleu, de bosses et d'écorchures qui se relève, les yeux pleins d'étoiles, et qui lui dit « Ah, je crois bien que j'ai volé. » Et ce sera le premier vol de celle qui plus tard va fendre les airs et acquérir une réputation incroyable. Oui, physiquement, les deux filles sont téméraires. Et entre autres exploits, Amélia va tirer à la carabine les rats dans la grange des grands-parents. Et à sa grand-mère qui s'en émeut, elle répond « Mais Granny, c'est pour vous protéger de la peste !» Cette enfance heureuse se termine. Ensuite, eh bien, les filles vont vivre avec leurs parents. Et malheureusement, Edwin devient alcoolique. Donc il perd son travail, puis il en trouve d'autres emplois qu'il perd tout aussi vite. En tout, Amélia va faire ses études dans 6 lycées différents. Avec les années, elle devient une adolescente plus réfléchie. Elle perd un peu de son côté vif-argent, mais elle garde quand même des idées bien arrêtées. Avec ses amies, elles ont décidé qu'elles ne suivraient pas comme leur mère et leur grand-mère. Elles ne se laisseraient pas contrôler leur vie par les hommes. Amélia hésite pour son avenir. Est-ce qu'elle sera un médecin ou ingénieur ? Elle collectionne les coupures de presse qui relatent les exploits réalisés par des femmes. En 1916, elle est étudiante à Philadelphie et elle rend visite à sa sœur à Toronto. Et là, elle croise tous les soldats qui sont revenus du front européen. Beaucoup sont blessés, mutilés, il leur manque un bras, une jambe. Elle écrit « Je réalisais soudain que la guerre ne se résumait pas à tricoter des pulls verts ou à danser avec de séduisants soldats en uniforme. Retourner étudier m'était impossible, dès lors qu'il y aurait du travail de guerre que je pourrais accomplir. » Dès février de l'année suivante, elle abandonne l'université et elle est volontaire à la Croix-Rouge, puis aide-infirmière dans un hôpital militaire. Et les récits des jeunes pilotes qu'elle soigne vont enflammer son imagination. Elle travaille beaucoup, mais elle aime sortir aussi. Elle monte à cheval, elle monte un cheval très indocile qui a même désarçonné un colonel, Amélia Lamadou, en lui donnant des pommes à manger. Et elle fait la connaissance de 3 officiers de l'armée de l'air qui l'invitent un jour à venir les voir sur un terrain d'aviation. Et là, c'est là qu'elle, soudain, elle va éprouver une envie irrésistible de voler. Elle écrit « Je décidai alors qu'un jour, je monterais à bord de ces machines diaboliques. Ils étaient comme de grands oiseaux qui glissaient sur l'épaisse couche de neige et s'élevaient dans les airs avec un rugissement fantastique qui se répercutait sur les arbres en bordure du pré. » Elle demande à ses amis l'autorisation de monter à bord, mais ceux-ci sont obligés de lui en refuser. En 1918, l'armistice est signé, mais elle continue à travailler à l'hôpital, elle soigne les malades de la grippe espagnole, elle contracte une affection des sinus qui va la poursuivre toute sa vie, elle va subir plusieurs opérations et elle aura beaucoup de problèmes. Elle retourne auprès de ses parents pour sa convalescence à Los Angeles. Elle ne sait toujours pas trop quel métier elle fera plus tard. Los Angeles, à cette époque, eh bien, elle vit en direct la conquête de l'air. Tous les gens se pressent pour des meetings aériens sur d'immenses champs et regardent les yeux en l'air les pilotes, souvent d'anciens vétérans de la guerre, qui font des acrobaties, des loopings, des vrilles. Amélia a 23 ans et son père lui offre un baptême. Ces baptêmes, ce sont des vols de quelques minutes qui coûtent quelques dollars. Le pilote, lorsqu'il voit cette grande fille mince, il prend un avion 3 places et il demande à un de ses collègues de venir avec lui pour retenir la fille au cas où elle prendrait une crise de nerfs et elle voudrait sauter par-dessus bord. Le vol dure juste le temps de sentir l'accélération qui vous colle le dos au siège. le cœur qui tombe dans la poitrine et puis cette grisante sensation de liberté, de voir la terre qui rétrécit, sentir le vent qui vous griffe les joues. Le pilote murmure à sa passagère, ou crie plutôt à sa passagère, des indications touristiques qu'elle n'entend pas. Elle est toute à la joie de voler. Et lorsque le vol se termine, qu'elle descend, elle remercie le pilote, elle s'éloigne. Lui, il la regarde partir narquois et il dit à son collègue, ah ben, en voilà une qu'on ne reverra pas de sitôt. Il ne sait pas que la décision d'Amélia est prise. Elle volera coûte que coûte. Et il en coûte 1 $ la minute. Il faut au moins 1 000 $ pour espérer décrocher une licence de pilote. Amélia n'a pas de travail et pourtant elle va trouver les moyens financiers pour réaliser ce rêve. Elle va trouver beaucoup de petits boulots, en tout 28. Elle conduit un engin pour déblayer le gravier. Elle est standardiste, assistante d'un photographe et encore bien d'autres choses. Comme instructeur, elle choisit plutôt une instructrice, une femme. Elle prend sa première leçon à 23 ans. Ce n'est pas une élève particulièrement douée. Elle est très téméraire. Oui, il y a souvent des disputes entre l'instructrice et son élève. Amélia, elle passe entre les lignes à haute tension au lieu de les éviter. Plusieurs fois, les atterrissages sont mouvementés. Pourtant, lorsque son instructrice estime qu'elle est prête pour s'envoler seule, Amélia, elle, juge qu'elle ne l'est pas. Avant, elle veut être initiée à la voltige et aux cascades. Au cas, eh bien, où il y aurait un coup dur et comme ça, elle pourra s'en sortir. Et d'ailleurs, cela lui sera bien utile plus tard lors de sa traversée de l'Atlantique. Elle écrit à sa sœur « Le ciel m'appartient. Cependant, mon apprentissage est difficile. » Les crashs sont courants. La dernière fois, je me suis mordu la langue. Mais là-haut, toutes mes appréhensions s'envolent. Elle sera la 16e femme à obtenir sa licence de la prestigieuse Fédération Aéronautique Internationale. Pour son 25e anniversaire, avec l'aide de sa mère, elle s'offre son premier avion. Elle le peint en jaune et le baptise le Canari. Il est si léger qu'elle peut le déplacer elle-même en le tirant par la queue. Aux commandes du Canari, elle ne se sent plus de limite. Elle établit un nouveau record féminin d'altitude. Elle participe à des meetings aériens dont elle devient très vite la vedette. Elle prend des passagers et elle gagne peu à peu quand même le respect de ses collègues masculins plutôt misogynes. Il y a même un article dans un journal et il parle d'Amélia en ces termes, une femme qui vole comme un homme. Cependant, voler coûte cher. Amélia vend son avion pour s'acheter une voiture. Et elle se fait embaucher comme assistante sociale dans un vieux centre de Boston. Elle s'engage à fond. Tout ce qu'elle fait, toute sa vie, elle l'aura toujours fait à fond. Donc elle s'engage à fond dans son nouveau métier auprès des immigrés syriens, chinois, italiens, irlandais. Elle organise des activités et enseigne l'anglais pour les adultes et pour les enfants. Et tous l'adorent. Elle monte rapidement en grade. En ce qui concerne l'aviation, eh bien, un nouvel aérodrome s'ouvre à Boston et elle s'y investit, elle devient une des directrices. Nous voici en 1927. Le 21 mai 1927, le pilote américain Charles Lindbergh, aux commandes du Spirit of St. Louis, réussit la première traversée de l'Atlantique en avion. Il lui faut 33h30 pour relier New York au Bourget à côté de Paris. Cet exploit va déchaîner un torrent d'enthousiasme en Europe et dans le monde entier. Le nom de Lindbergh est sur toutes les lèvres, et bien sûr, Amélia suit ses exploits avec passion. L'année suivante, d'autres tentatives vont suivre, et 5 femmes vont tenter la traversée, toutes comme passagères. Et trois vont y laisser leur vie, et les deux autres sont obligés d'abandonner par suite d'ennuis mécaniques. En mars 1928, le téléphone sonne dans le centre où travaille Amélia. C'est pour elle. Elle a des enfants accrochés à ses jupes. Elle demande qu'on rappelle plus tard. L'interlocuteur insiste. Elle se décide à prendre le combiné. Et là, son interlocuteur se présente. C'est un capitaine. Il lui demande si elle serait intéressée par un projet un peu risqué. Est-ce qu'elle voudrait traverser l'Atlantique ? Amélia n'a pas besoin de délai de réflexion, elle répond oui sans hésiter. C'est son rêve là qu'on lui offre sur un plateau. À l'origine de ce projet, c'est une riche américaine, Lady Guest, qui est mariée à un Anglais et pour promouvoir les bonnes relations entre l'Angleterre et les États-Unis, elle a décidé de financer une traversée de l'Atlantique. Elle a acheté un avion, engagé un pilote et un mécanicien. Il lui faut maintenant une passagère. Au début, elle avait pensé être elle-même, cette passagère. Puis sa famille lui a fait valoir que c'était beaucoup trop dangereux. Alors elle décide de trouver une jeune fille, une américaine, bien sous tout rapport, aviatrice, même si elle ne touchera pas aux commandes, qui sera la passagère de cette traversée, et donc la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Pour trouver cette perle rare, elle fait appel à George Putnam, un éditeur et publicitaire new-yorkais, qui est très en vogue depuis qu'il a publié le récit de Lindbergh, de sa traversée héroïque, qui s'appelle « Oui », c'est-à-dire « Nous, mon avion et moi ». Et Putnam a entendu parler d'Amélia. Il la convoque dans ses bureaux à New York. Oh, il fait, quand elle arrive, il fait l'homme très affairé, au téléphone. Et Amélia le regarde, il est grand, plutôt bel homme, manteau carré, lunettes. De son côté, sans en avoir l'air, il la regarde et ce qu'il voit lui plaît. Lui plaît beaucoup. Une grande jeune fille à la silhouette longiligne, ses cheveux dorés coupés courts, ses yeux gris au regard franc et direct, et surtout son sourire. Un sourire à croquer le monde. Sans doute, dès cette première entrevue, Georges est tombé amoureux d'Amélia. Et en plus, elle ressemble à Lindbergh. Elle est parfaite. Ce sera elle. Amélia est engagée. Elle fait connaissance avec le pilote et le mécanicien. Le contrat est clair. Elle devra rester assise et contempler le paysage. Elle pourra, par la suite, donner des conférences et écrire le récit de la traversée. Elle est un peu déçue parce qu'elle est quand même aviatrice, mais Georges la console. L'Atlantique franchi, la gloire vous attend, ma chère. Vous ne remettrez plus les pieds dans vos chaussures à talons plats d'assistante sociale. Imaginez ce que votre histoire vous rapportera et l'horizon fabuleux qui s'ouvre à vous. Vous oublierez vite votre frustration. Plus tard, avec un exploit en propre auquel celui-ci vous préparera. Il ne croit pas si bien dire. Les préparatifs du départ sont faits dans le plus grand secret parce que d'autres équipes sont sur les rangs et il y a d'autres femmes aviatrices qui aimeraient bien être les premières aussi. Finalement, le 3 juin, le trio s'envole pour Terre-Neuve, la baie de Tripassi, la pointe ouest du Canada. Putnam prévient les journaux qui titrent « La fille de Boston va traverser l'Atlantique ». Seulement, la météo est exécrable. Et ils doivent attendre 15 jours que le temps s'améliore. Amélia écrira que ces 15 jours ont été les plus durs de toute la traversée. Le pilote désœuvré devient alcoolique. Le mécanicien veut qu'on engage un autre pilote. Et Amélia doit déployer tous ses talents d'assistante sociale pour maintenir la cohésion de son équipe. Elle emmène le pilote dans de grandes promenades le long de la grève. Elle ne se plaint pas de la nourriture roborative qu'on leur sert. Elle guette la météo. Et dès qu'un dimanche matin, le temps est à peu près correct, eh bien, les journalistes qui y sont restés, qui ont attendu, médusés, y voient l'aviatrice qui traîne son pilote à moitié groggy, presque de force, jusqu'au Friendship, leur avion. Le mécanicien leur emboîte le pas. et elle affirme qu'elle croit en leur chance et qu'ils vont réussir. Après un faux départ, parce que l'avion trop chargé n'arrive pas à s'envoler, on largue du carburant, ce qui veut dire bien sûr de la sécurité en moins. Finalement, comme un gros oiseau, eh bien, le friendship tourne le dos au port, il tangue et le voilà qui s'élève enfin. Il revient en direction de la côte, il passe au-dessus du port et il s'éloigne vers le nord. Il est midi 21. Quand elle apprend le départ de sa rivale, l'autre aviatrice, une rivale d'Amélia, qui était à Harbour Grace avec son pilote et son avion et qui espérait bien décoller, lorsqu'elle apprend qu'Amélia a décollé, elle s'étouffe de rage. Elle accuse le météorologue de lui avoir fourni à elle de fausses indications pour favoriser sa rivale. Et c'est vrai qu'au début, à bord du Friendship, tout va bien. Amélia, qui est coincée entre les bidons de carburant, admire en dessous d'elle le bleu turquoise des lacs de Terre-Neuve. Elle se félicite d'avoir fait confiance à son pilote parce que depuis qu'il est aux commandes, il a retrouvé toutes ses capacités. Il a l'œil vif, il regarde les instruments de navigation devant lui et il aura besoin de toutes ses capacités parce que ce beau temps ne va pas durer. Une heure plus tard, l'avion plonge dans un horizon menaçant, chargé d'immenses cumulonimbus. Amélia écrit que le pilote a été merveilleux. Et elle s'inquiète pas outre mesure parce que cette tempête est conforme aux prévisions météo. Les moteurs font un boucan infernal, l'avion tangue dans les bourrasques de neige tout en filant droit dans le brouillard. Puis ils sortent de cette tempête, enfin. La carlingue est glacée, Amélia est coincée là et malgré tout, elle s'endort. Elle va passer une partie de cette traversée héroïque à dormir. Lorsqu'elle se réveille au petit matin, autour d'eux, tout est blanc. Ils sont dans un brouillard à couper au couteau, un univers fantasmagorique. La radio tombe en panne, la jauge de carburant est à zéro. Ils scrutent tous les trois le brouillard, ils se font mal aux yeux à force de chercher une côte. Et le pilote tente le tout pour le tout, il fait plonger l'appareil, il guette les hoquets du moteur qui annonceraient la panne sèche. Enfin, en dessous d'eux, la terre. Il était temps, l'appareil se pose doucement, non en Irlande comme ils avaient prévu, mais au pays de Galles. Qu'importe, ils ont réussi à traverser. Ils ont mis 20h40 pour rentrer dans l'histoire. Il reste si peu de carburant qu'ils n'auraient même pas pu décoller de nouveau. La nouvelle de leur succès se répand, les journalistes affluent et tout le monde veut interviewer Amélia, la première femme qui a traversé l'Atlantique. Elle a beau dire qu'elle n'y est pas pour grand-chose, elle était comme un bagage, comme un sac de pommes de terre. Elle rend hommage à ses coéquipiers, mais personne ne s'intéresse à eux. Il y a déjà eu Lindbergh, alors qu'elle, elle est la première femme. Et quand on lui demande pourquoi elle a accepté un pari aussi risqué, elle répond par ce qui sera le credo de toute sa vie et le titre d'un de ses livres, « For the fun of it », pour le fun. C'est la gloire, télégramme, appel téléphonique, même sa rivale malheureuse la félicite. Amélia répond aux questions, aux interviews, elle est toujours gentille et franche et honnête, elle ne cherche pas à se donner le beau rôle. Elle écrit un jour, les femmes voleront au-dessus de l'Atlantique et personne n'y prêtera attention parce que ce sera banal. Après un accueil extraordinaire à Londres, elle rentre aux États-Unis en bateau. Sa triomphe, elle est surnommée Miss Lindy. En raison de sa ressemblance avec Lindbergh, Putnam obtient pour elle la couverture du New York Times. Et là, on la voit en tenue d'aviatrice avec sa veste de cuir et un pli entre les sourcils, l'air sérieux. Mais les journaux titrent un triomphe de femme. Il faut embaucher 4 secrétaires pour répondre aux demandes d'interviews, d'autographes, de livres, de conférences, de réceptions et aussi les demandes en mariage. Et le plus ardent des soupirants d'Amélia, c'est Georges. Georges Putnam, qui entre-temps a divorcé et va assiéger la forteresse jusqu'à ce qu'elle cède. La sixième demande en mariage sera la bonne. Mais Amélia est très jalouse de sa liberté. Et elle fait promettre à Georges qu'au bout d'un an de mariage, si cela ne convient pas à l'un ou à l'autre membre du couple, eh bien, ils pourront retrouver leur liberté. Elle n'a pas le temps d'aller acheter une alliance parce que, eh bien, elle s'est achetée un nouvel avion. Et ça, ça passe avant tout. Alors pour la cérémonie, elle emprunte celle de sa belle-mère. Elle n'en portera jamais, en dehors de la cérémonie. Elle ne portera plus d'alliance. Georges fera beaucoup pour la carrière de sa femme. Avec ses talents, il arrive à trouver des financements pour ses vols. Il lui organise des tournées de conférences. Sans lui, Amelia Earhart, l'aviatrice célèbre, n'aurait peut-être jamais existé, faute de moyens financiers. Et grâce à son mari, Amelia peut s'adonner tout entière à sa passion, voler. Oui, elle donne des conférences, elle accepte même de tourner dans des publicités. Tout cela pour accumuler de quoi voler. Et voler, elle va le faire. Elle perfectionne sa maîtrise des commandes, elle réalise de nouveaux records. Elle œuvre aussi pour la cause des femmes. Elle va créer une association de femmes pilotes. Elle organise le premier derby féminin d'aviation, surnommé par messieurs les aviateurs le derby des houppettes à poudre. 4 ans passent. Et là, elle se sent prête. Elle va prouver qu'elle mérite toutes les louanges et tous les éloges qu'elle a reçus. Oui, elle va traverser l'Atlantique, mais cette fois, c'est elle qui sera aux commandes.
Fire's dying out, all the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. You wear the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, and everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. Like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe our love's a mystery. me like a stranger once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again.
Kiss me, Tom Waits, pour notre pause musicale. Amelia a décidé de traverser l'Atlantique, mais cette fois aux commandes de ce navire. En 1931, la principale rivale d'Amelia, Russ Nichols, avait tenté cette traversée, mais malheureusement, l'avion s'est écrasé quelques minutes après le décollage et l'aviatrice avait été grièvement blessée. Pourtant, avec une incroyable volonté, Russ va voler de nouveau, elle prépare une nouvelle tentative. Amelia sait qu'il lui faut se dépêcher si elle veut réussir cet exploit. Et elle engage un de ses meilleurs amis, un des meilleurs pilotes du moment, pour être son préparateur. Il accepte avec joie. Il faut renforcer le fuselage de l'avion, installer de nouveaux moteurs, des réservoirs supplémentaires. Et Amelia, elle perfectionne sa connaissance des météos et des lectures de cartes. Le 19 mai 1932, la météo annonce un temps clair sur l'Atlantique. Amelia et son préparateur s'envolent pour Terre-Neuve, Harbour, Grèce. Elle se repose jusqu'à 19h et lui, il attend à côté de l'avion. Il la voit arriver dans sa tenue de vol habituelle. Culotte de cheval, veste de cuir, une grande écharpe de soie. Sa chevelure blonde est bourriffée, elle l'écoute en se mordillant la lèvre. Et lui, il lui détaille le plan de vol, le temps qu'elle doit s'attendre à rencontrer. Quand il a fini, elle le regarde avec un petit sourire, elle lui demande « Tu crois que je vais réussir ?»« Ben oui, » répond-il, « bien sûr. Et comment ?» Elle s'introduit posément dans la carlingue, elle lance le moteur, elle vérifie que les instruments de navigation fonctionnent, puis elle fait un petit signe, les hommes enlèvent les cales, et la voilà partie. Le début du vol est calme. Le soleil couchant enveloppe les nuages de grandes écharpes d'or. Amelia n'appartient plus vraiment à la Terre. Elle ne fait plus qu'un avec son avion. Elle vole. Elle a toujours volé, elle est à sa place, là, dans le grand ciel immense. La nuit l'enveloppe, et elle est aussi fragile qu'une petite coque de noix dans cet vaste univers. Puis soudain, c'est l'orage. Tous ses instruments de navigation tombent en panne. Sans altimètre, elle ne sait plus à quelle altitude elle vole, et sans doute elle vole trop haut parce que le givre se dépose sur les ailes de l'avion qui chute d'un seul coup, qui dégringole de 1000 mètres. Amelia a réussi à redresser au ras des vagues et c'est là où eh bien, toutes ces leçons qu'elle a prises justement de voltige et de cascade vont lui servir parce qu'elle réussit quand même à maîtriser son avion qui était parti en vrille. Puis ensuite, bah, lui faut voler comme ça au jugé, ni trop haut pour éviter le givre, ni trop bas pour éviter les vagues. La nuit est longue. Mais 4 heures plus tard, voilà des flammèches qui se déclenchent à l'arrière de l'avion. Il y a une fuite de carburant. Les flammèches deviennent des flammes. Amelia serre les dents. Elle sait qu'elle ne retournera pas en arrière, quoi qu'il arrive. Seulement, elle décide d'infléchir sa trajectoire et elle renonce à Paris et elle met le cap sur l'Irlande parce qu'elle a peur de manquer de carburant. Enfin, le jour se lève et en dessous d'elle, elle voit de vertes collines. Elle les survole pour choisir où atterrir. Elle voit un pré en pente et là, elle se pose au milieu des vaches, pas trop affolée. Le propriétaire du champ se précipite. Il lui confirme qu'elle est bien en Irlande. Il lui demande d'où elle vient. Avec un sourire, elle répond « Moi, je viens d'Amérique. » Elle a réussi. Pas tout à fait aussi bien que Lindbergh, puisqu'il n'a pas pu atteindre Paris comme elle l'espérait, mais elle a quand même réussi à traverser. Elle est la seconde personne à avoir réussi la traversée en solitaire, la première femme. Elle a aussi battu le record de la plus longue distance parcourue d'une traite par une femme. Et elle est la seule personne au monde à avoir survolé deux fois l'Atlantique. À 34 ans, elle est au sommet de sa gloire. La moindre de ses apparitions publiques va déclencher des foules innombrables qui l'acclament et qui se disputent des morceaux de son écharpe. Les photos de Lady Lindy font la une des journaux. Ce surnom l'agace un peu. Enfin, elle triomphe, elle est comblée d'honneurs, de décorations, assaillie par des milliers de supporters, mais elle ne se laisse pas tourner la tête. Elle sait que le vent de la chance tourne rapidement. Elle écrit « Un jour viendra où j'y resterai. Je n'ai pas envie de mourir, mais quand je mourrai, je veux que ce soit dans mon avion. » 5 ans après cette traversée, elle va battre des records de distance, de vitesse, d'altitude. Elle réussit une traversée de l'ouest en est des États-Unis. Elle relie Mexico à Los Angeles. Elle est aussi très engagée dans la cause féministe. Elle écrit des articles et des conférences. Mais tout cela ne lui suffit pas. Il faut qu'elle retrouve ce sentiment unique d'accomplir quelque chose que personne d'autre n'a accompli avant elle. Faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors elle décide d'entreprendre un tour du monde. Elle s'adjoint un navigateur, Fred Noonan, pour lire les cartes et repérer la trajectoire. Une première tentative échoue. L'avion, sans doute, est mal équilibré. Le carburant est mal réparti. Et lorsqu'il veut décoller, une des ailes heurte la piste, le train d'atterrissage s'effondre. Amélia a le bon réflexe de couper le contact, ce qui évite que l'embrasement général, il n'y a pas de blessé. Son avion, l'Electra, est réparé, modifié, et 2 mois plus tard, prêt à repartir. Le 21 mai 1937, l'aviatrice décolle d'Auckland, côte ouest, jusqu'à Miami, pour la première étape de son tour du monde. George est à bord, et bien sûr Fred, le navigateur. Puis le couple se dit adieu. Amélia et Fred continuent leur voyage. Costa Rica, Venezuela, Brésil, traversée de l'Atlantique Sud jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Là, ils rencontrent de très fortes pluies. Le matériel radio fonctionne mal, mais l'accueil des populations est chaleureux. La traversée de l'Afrique se passe bien, malgré une chaleur torride qui les force à décoller dès l'aube. Puis ils volent le long du golfe d'Aden et de la mer d'Arabie. Au terme d'un vol de plus de 13 heures, l'Electra atteint l'aérodrome de Karachi, dans l'actuel Pakistan. Amélia téléphone à George. Il n'a pas entendu sa voix depuis qu'ils se sont séparés aux États-Unis. Il lui demande si elle est heureuse. Bien sûr, c'est un voyage formidable. Nous le referons ensemble un de ces jours. Il lui demande comment ça se passe avec Fred. La réponse d'Amélia est laconique, très bien. George s'inquiète parce que si Amélia n'en dit pas plus, est-ce que le navigateur qui avait eu des problèmes d'alcoolisme serait retombé? Amélia n'en dira pas plus ce jour-là. À Karachi, elle découvre le plaisir d'une balade à dos de chameau. Ils s'envolent pour Calcutta, à 1500 mètres d'altitude, ils partagent le ciel avec des aigles. Elle écrit à son mari « J'aimerais que tu sois là. Il y a tant de choses qui te plairaient. Peut-être qu'un jour nous pourrons voler ensemble vers ces régions les plus reculées du monde. » La mousson va obliger Amélia et Fred à se dépêcher. Les terrains sont détrempés, les atterrissages et les décollages sont difficiles. Ils survolent la Birmanie, Singapour, Java, l'Australie, la Nouvelle-Guinée. Elle ne leur reste plus que le Pacifique. Ils ont décidé de traverser le Pacifique jusqu'à l'île d'Hollande, un îlot minuscule de 4 km de long, 1 km de large, qui est à peu près à mi-chemin entre la Nouvelle-Guinée et Hawaï. Et pour aider l'aviatrice à trouver ce minuscule point dans l'océan, un navire, l'Itasca, va stationner à proximité. Et il va la guider par radio et aussi envoyer dans le ciel des panaches de fumée lorsqu'elle sera à proximité. Ce 2 juillet 1937, Amelia est face au Pacifique. Elle écrit « Nous avons laissé le monde entier derrière nous, à l'exception de cet immense océan. » Electra décolle le matin de Nouvelle-Guinée. Une heure plus tard, l'Itasca reçoit un message « Tout va bien ». 4 heures après, ils ont survolé les îles Salomon et les vents sont plus forts que prévu et ils augmentent la consommation en carburant. L'Itasca répond, envoie message sur message, mais l'aviatrice ne semble pas les recevoir. Le navire lui demande d'émettre et de recevoir sur une autre fréquence, sans réponse, et pour cause, Amelia a laissé aux États-Unis la grande antenne pour alléger son avion, la grande antenne qui lui aurait permis justement de capter et d'émettre sur d'autres fréquences. Et cette erreur va peut-être lui coûter la vie. Les heures passent et toujours plus de nouvelles de l'Electra. L'angoisse monte sur le navire, on se presse dans la minuscule cabine radio. Puis quand le jour se lève, l'Itasca envoie des nuages de fumée noire dans le ciel pour essayer de guider l'avion. On aperçoit au loin de grosses masses nuageuses. Est-ce que par hasard, il se serait perdu là-dedans ? Toujours rien. Le navire essaie désespérément de localiser l'aviatrice. Puis soudain, la voix d'Amelia résonne dans la cabine. Claire, comme si elle était juste à côté. Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant va manquer. Nous volons sur une ligne 137-337, nord et sud. Volons nord et sud. Puis plus rien. Ce sera la dernière fois qu'on entendra la voix de l'aviatrice. Plus de 4 millions de dollars vont être engagés par le président Roosevelt pour retrouver l'Electra et ses deux occupants. 66 avions, une vingtaine de navires et 4000 hommes vont quadriller l'océan en vain. George, bien sûr, se rend sur place et il poursuit les recherches après l'arrêt officiel avec l'aide de la marine britannique, mais en vain. Le Pacifique va garder ses secrets et sans doute l'aviatrice a eu le destin qu'elle voulait. Elle qui écrivait dans une lettre à remettre à sa mère au cas où il lui arriverait malheur, « Même si j'ai perdu, l'aventure en valait vraiment la chandelle. Ma vie a été très heureuse et je ne suis pas triste à l'idée de contempler sa fin en plein milieu. » C'était l'histoire d'Amelia Earhart, née le 24 juillet 1897, disparue en 1937, peu avant ses 40 ans. La bibliographie de notre histoire d'aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages en anglais, notamment des ouvrages écrits par Amelia. 20 hours, 40 minutes, Our Flight in the Friendship et The Fun of It. Il y a une biographie de l'aviatrice écrite par Susan Butler qui s'appelle East to the Dawn. Et puis, Amelia Earhart, un petit livre en anglais de Lee Stone. Pour les ouvrages en français, il y a la biographie très complète qui s'appelle Amelia par Bernard Marc aux éditions Artaud et une BD qui s'appelle Amelia de Arnie West aux éditions Steinkiss. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est fini pour ce mois-ci. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles histoires. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique.